On Air, un projet radiophonique d'enregistrement et de diffusion de pièces théâtrales portées par le théâtre Les Airs. Diffusion sur les ondes de RDIWA et à réécouter en podcast sur le site théâtre-les-airs.com. Charlotte, Gilbert, Marguerite, Émilie et Christian, accompagnés pour la mise en voix par Yann Boudot, vous présentent Combat de nègres et de chiens de Bernard-Marie Coltès, enregistré en janvier 2022. Bonne écoute! Combat de nègres et de chiens, première partie.
Dans un pays d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal au Nigeria, un chantier de travaux publics d'une entreprise étrangère. Personnage.
Orne, 60 ans, chef de chantier.
Albouri, un noir mystérieusement introduit dans la cité.
Léon, une femme amenée par Orne.
Cal, la trentaine, ingénieur.
Lieu. La cité, entourée de palissades et de miradors, où vivent les cadres et où est entreposé le matériel. Un massif de bougainvillées, une camionnette rangée sous un arbre. Une véranda, table et rocking chair. Whisky. La porte entrouverte de l'un des bungalows. Le chantier. Une rivière le traverse. Un pont inachevé. Au loin, un lac. Le pont. Deux ouvrages symétriques, blancs et gigantesques de béton et de câbles, venus de chaque côté du sable rouge et qui ne se joignent pas dans un grand vide de ciel. Au-dessus d'une rivière de boue. Tableau 1. Derrière les bougainvilliers, au crépuscule.
J'avais bien vu, de loin, quelqu'un derrière l'arbre.
Je suis Albouri, monsieur. Je viens chercher le corps. Sa mère était partie sur le chantier poser des branches sur le corps, monsieur. Et rien, elle n'a rien trouvé. Et sa mère tournera toute la nuit dans le village à pousser des cris si on ne lui donne pas le corps. Une terrible nuit, monsieur. Personne ne pourra dormir à cause des cris de la vieille. C'est pour cela que je suis là.
C'est la police, monsieur, ou le village qui vous envoie ?
Je suis Albouri, venu chercher le corps de mon frère, monsieur.
Une terrible affaire, oui. Une malheureuse chute, un malheureux camion qui roulait à toute allure. Le conducteur sera puni. Les ouvriers sont imprudents, malgré les consignes strictes qui leur sont données. Demain, vous aurez le corps. On a dû l'emmener à l'infirmerie, l'arranger un peu pour une présentation plus correcte à la famille. Faites part de mon regret à la famille. Je vous fais part de mes regrets. Quelle malheureuse histoire.
Malheureuse, oui. Malheureuse, non. S'il n'avait pas été ouvrier, monsieur, la famille aurait enterré la calebasse dans la terre et dit « une bouche de moins à nourrir ». C'est quand même une bouche de moins à nourrir puisque le chantier va fermer et que dans peu de temps, il n'aurait plus été ouvrier, monsieur. Donc, ça aurait été bientôt une bouche de plus à nourrir. Donc, c'est un malheur pour peu de temps, monsieur.
Vous, je ne vous avais jamais vu par ici. Venez boire un whisky. Ne restez pas derrière cet arbre, je vous vois à peine. Venez vous asseoir à table, monsieur. Ici, au chantier, nous entretenons d'excellents rapports avec la police et les autorités locales. Je m'en félicite.
Depuis que le chantier a commencé, le village parle beaucoup de vous. Alors j'ai dit, voilà l'occasion de voir le blanc de près. J'ai encore, monsieur, beaucoup de choses à apprendre, et j'ai dit à mon âme, cours jusqu'à mes oreilles et écoute. Cours jusqu'à mes yeux et ne perds rien de ce que tu verras.
En tous les cas, vous vous exprimez admirablement en français. En plus de l'anglais et d'autres langues, sans doute, vous avez tous un don admirable pour les langues ici. Êtes-vous fonctionnaire ? Vous avez la classe d'un fonctionnaire. Et puis, vous savez plus de choses que vous ne le dites. Et puis, à la fin, tout cela fait beaucoup de compliments.
C'est une chose utile, au début.
C'est étrange. D'habitude, le village nous envoie une délégation et les choses s'arrangent vite. D'habitude, les choses se passent plus pompeusement, mais rapidement. 8 ou 10 hommes, 8 ou 10 frères du mort, j'ai l'habitude des tractations rapides. Triste histoire pour votre frère. Vous vous appelez tous frères ici. La famille veut un dédommagement, nous le donnerons, bien sûr, à qui de droit, s'il n'exagère pas. Mais vous, pourtant, je suis sûre de ne vous avoir encore jamais vue.
Moi, je suis seulement venue pour le corps, monsieur, et je repartirai dès que je l'aurai.
Le corps, oui, vous l'aurez demain. Excusez ma nervosité, j'ai de grands soucis. Ma femme vient d'arriver, depuis des heures elle range ses paquets, je n'arrive pas à savoir ses impressions. Une femme ici, c'est un grand bouleversement. Je ne suis pas habituée.
C'est très bon, une femme ici.
Je me suis mariée très récemment. Très, très récemment. Enfin, je peux vous le dire, ce n'est même pas tout à fait accompli, je veux dire les formalités. Mais c'est un grand bouleversement quand même, monsieur, de se marier. Je n'ai pas du tout l'habitude de ces choses-là. Cela me cause beaucoup de soucis et de ne pas la voir sortir de sa chambre me rend nerveux. Elle est là et elle range depuis des heures. Buvons un whisky en l'attendant. Je vous la présenterai. Nous ferons une petite fête et puis vous pourrez rester. Mais venez donc à table. Il n'y a presque plus de lumière ici. Vous savez, j'ai la vue un peu faible. Venez donc vous montrer.
Impossible, monsieur. Regardez les gardiens. Regardez-les là-haut. Ils surveillent autant dans le camp que dehors. Ils me regardent, monsieur. S'ils me voient m'asseoir avec vous, ils se méfieront de moi. Ils disent qu'il faut se méfier d'une chèvre vivante dans le repaire du lion. Ne vous fâchez pas de ce qu'ils disent. Être un lion est nettement plus honorable qu'être une chèvre.
Pourtant, ils vous ont laissé entrer. Il faut un laissez-passer généralement, ou être représentant d'une autorité. Ils savent bien cela.
Ils savent qu'on ne peut pas laisser la vieille crier toute la nuit, et demain encore. Qu'il faut la calmer, qu'on ne peut pas laisser le village tenu en éveil, et qu'il faut bien satisfaire la mère en lui redonnant le corps. Ils savent bien, eux, pourquoi je suis venue.
Demain, nous vous le ferons porter. En attendant, j'ai une tête prête à éclater, il me faut un whisky. C'est une chose insensée pour un vieux comme moi d'avoir pris une femme, n'est-ce pas, monsieur ?
Les femmes ne sont pas des choses insensées. Elles disent, d'ailleurs, que c'est dans les vieilles marmites qu'on fait la meilleure soupe. Ne vous fâchez pas de ce qu'elles disent. Elles ont leurs mots à elles, mais c'est très honorable pour vous.
Même se marier ?
Surtout se marier. Il faut les payer leur prix et bien les attacher ensuite.
Comme vous êtes intelligent. Je crois qu'elle va venir. Venez, venez, causons. Les vers sont déjà là. On ne va pas rester derrière cet arbre, dans l'ombre. Allons, accompagnez-moi.
Je ne peux pas, monsieur. Mes yeux ne supportent pas la trop grande lumière. Ils clignotent et se brouillent. Ils manquent de l'habitude de ces lumières fortes que vous mettez le soir.
Venez. Venez, vous la verrez.
Je la verrai de loin.
Ma tête éclate, monsieur. Qu'est-ce qu'on peut ranger pendant des heures ? Je vais lui demander ses impressions. Savez-vous la surprise ? Que de soucis. Je tire un feu d'artifice en fin de soirée. Restez, c'est une folie qui m'a coûté une fortune. Et puis, il faut que nous parlions de cette affaire. Oui, les rapports ont toujours été excellents, les autorités, je les ai dans la poche. Quand je pense qu'elle est derrière cette porte, là-bas, et que je ne connais pas encore ses impressions. Et si vous êtes un fonctionnaire de la police, c'est encore mieux. J'aime autant avoir affaire avec eux. L'Afrique doit faire un rude effet à une femme qui n'a jamais quitté Paris. Quant à mon feu d'artifice, il vous coupera le sifflet. Et je vais voir ce qu'on fait de ce sacré cadavre.
Il sort. Tableau 2. Orne devant la porte entrouverte.
Léone, êtes-vous prête ?
Léone de l'intérieur.
Je range.
Orne s'approche.
Non, je ne range pas.
Orne s'arrête.
J'attends que cela ne bouge plus.
Quoi ?
Que cela ne bouge plus. Quand il fera noir, cela ira mieux. C'est pareil le soir à Paris. J'ai mal au cœur pendant une heure, le temps que cela passe du jour à la nuit. D'ailleurs, les bébés aussi, quand ils crient, quand le soleil s'en va. J'ai des cachets à prendre, il ne faut pas que j'oublie.
Sortant à demi le visage, elle montre le bougainvillé.
Comment s'appellent ces fleurs ?
Je ne sais pas.
Elle disparaît à nouveau.
Venez boire un whisky.
Un whisky ? Oh là là, non, interdit. Il ne manquerait plus que cela. Vous me verriez alors. Cela m'est totalement interdit.
Venez quand même.
Je fais le compte de ce qui me manque. Il me manque des tas de choses, et j'ai des tas de choses dont je n'aurai jamais besoin. On m'avait dit, un pull, l'Afrique est froide la nuit. Froide, oui, les bandits. Me voilà avec 3 pulls sur les bras. Je me sens toute patraque. J'ai le trac Biquet, un de ces tracs. Comment sont les autres hommes? Les gens ne m'aiment pas en général la première fois.
Il n'y en a qu'un, je vous l'ai déjà dit.
L'avion, c'est une chose qui ne me plaît pas. Finalement, je préfère le téléphone. On peut toujours raccrocher. Pourtant, je me suis préparée comme une folle. J'écoutais du reggae toute la sainte journée. Les gens de mon immeuble sont devenus cinglés. Savez-vous ce que je viens de découvrir en ouvrant ma valise? Les Parisiens sentent fort, je le savais. Leur odeur, je l'avais sentie déjà dans le métro, dans la rue, avec tous ces gens qu'il faut frôler. Je la sentais traîner et pourrir dans les coins. Eh bien, je la sens encore, là, dans ma valise. Je ne supporte plus. Quand un pull, une chemise, n'importe quel bout de chiffon a pris l'odeur du poisson ou des frites ou l'odeur d'hôpital, essayez de l'ôter. Et celle-ci est plus tenace encore. Il me faudra le temps d'aérer tout ce linge. Que je suis contente d'être ici. L'Afrique, enfin.
Mais vous n'avez encore rien vu. Et vous ne voulez pas sortir de votre chambre.
Oh, j'en ai bien assez vu. Et j'en vois assez d'ici pour l'adorer. Je ne suis pas une visiteuse, moi. Maintenant, je suis prête. Dès que j'aurai fini le compte de ce qui me manque et de ce que j'ai en trop, et aéré le linge, je viens, je vous le promets.
Je vous attends, Léone.
Oh non, ne m'attendez pas. Non, ne m'attendez pas.
Les appels de la garde. Bruit de langue, de gorge, choc de fer sur fer, de fer sur bois. Petits cris, hoquets, chants brefs, sifflets, qui courent sur les barbelés comme une rigolade ou un message codé. Barrière au bruit de la brousse, autour de la cité. Léon apparaît à moitié.
Et qu'est-ce que c'est, cela?
Ce sont les gardiens. Le soir et toute la nuit, de temps en temps, pour se tenir éveillé, il s'appelle.
C'est terrible.
Elle écoute.
Ne m'attendez pas.
Elle rentre.
Oh, Biquet, il faut que je vous avoue quelque chose.
Quoi?
Juste avant de venir, hier soir, je me promenais sur le Pont Neuf. Et alors voilà quoi? Que je me sens tout d'un coup si bien, aussi heureuse, comme jamais, sans raison. C'est terrible. Quand il m'arrive quelque chose comme cela, eh bien je sais que cela va mal tourner. Je n'aime pas rêver de choses trop heureuses, ou me sentir trop bien, ou alors ça me met dans des états pour toute la sainte journée et j'attends le malheur. J'ai des intuitions, mais elles sont à l'envers, et elles ne m'ont jamais trempée. Oh, je ne suis pas pressée de sortir d'ici, Biquet.
Vous êtes nerveuse, et c'est bien normal.
Vous me connaissez si peu.
Venez, allons, venez.
Êtes-vous sûre qu'il n'y a qu'un homme?
J'en suis tout à fait sûre.
Le bras de Léon apparaît.
Vous me laissez mourir de soif. Quand j'aurai bu, je viendrai, je vous le promets.
Je vais chercher à boire.
Mais de l'eau, surtout de l'eau. J'ai des cachets à prendre et à prendre avec de l'eau.
Horn sort. Léon apparaît. Regarde.
Tout cela m'impressionne.
Elle se penche, cueille une fleur de bougainvillée et entre à nouveau. Tableau 3. Sous la véranda, Horn entre. Cale à la table, la tête entre les mains.
Toubab, pauvre bête, pourquoi es-tu partie?
Il pleure.
Quel mal est-ce que je lui ai fait? Horn, tu me connais, tu connais mes nerfs. S'il ne revient pas ce soir, je les tuerai tous. Pouffeur de chien, ils me l'ont pris. Je ne peux pas dormir sans lui, Horn. Ils sont en train de me le manger. Je ne l'entends même pas aboyer. Toubab!
Horn disposant le jeu de gamelle.
Trop de whisky.
Il met la bouteille de son côté.
Trop de silence.
Je mets 50 francs.
Sur 5 chiffres?
Sur chacun.
Je ne suis pas. 10 francs par chiffre, pas un sou de plus.
Tu t'es rasé et peigné?
Tu sais bien que je me rase toujours le soir.
Horn regardant les dés.
C'est pour moi.
Il ramasse.
D'ailleurs, je veux jouer avec des pions. Pour le plaisir, pour le jeu pur. Tu ramasses, il n'y a plus aucun plaisir. Tu ne trouves du plaisir qu'à ramasser, c'est écœurant. Chacun pour soi et rien pour le plaisir. Une femme, ça va nous apporter un peu d'humanité ici. Tu vas la dégoûter, ça va être vite fait.
Moi, je suis pour un jeu désintéressé, pas pour le ramassage. On doit jouer avec des pions. D'ailleurs, les femmes préfèrent jouer avec des pions. Les femmes apportent de l'humanité dans le jeu.
Il y a là un homme, Cal. Il est du village ou de la police, ou pire encore, car je ne l'ai jamais vu. Il ne veut pas dire au nom de qui il vient demander des comptes. Mais des comptes, il va en demander et tu lui en rendras. À lui. Prépare-toi. Moi, je ne m'en mêle pas. Je n'ai pas la tête à cela. Je ne sais rien, je ne te couvre pas, je n'étais pas là. Mon travail est terminé et salut. Cette fois, tu répondras toi-même. Et tu ne supportes même pas une foutue goutte de whisky ?
Mais je n'y suis pour rien, Orne. Je n'ai rien fait, moi, Orne. Ce n'est pas le moment de se diviser. On doit rester ensemble, on doit rester unis, Orne. C'est simple. Tu fais un rapport pour la police, un rapport à la direction, tu le signes et hop, et je me tiens tranquille. Toi, tout le monde te croit. Je n'ai que mon chien, moi. Personne ne m'écoute. Il faut rester ensemble contre tous. Je ne parlerai pas à ce nègre. L'affaire est simple et moi, je te dis toute la vérité et à toi de jouer. Tu connais mes nerfs, Orne. Tu les connais bien. Il vaut mieux que je ne le voie pas. D'abord, je ne veux voir personne tant que mon chien n'est pas revenu.
Il pleure.
Ils vont me le bouffer.
Je mets 50 francs par chiffre et pas un sou de moins.
Cal pose 50 francs. Cri des crapauds buffle, tout près.
On regardait le ciel, les ouvriers et moi. Le chien avait senti l'odeur de la tempête. Un gars traversait le chantier, je le vois. À cet instant, un violent orage éclate. Je crie, viens tout bas, viens. Le chien dresse le museau, dresse ses poils. Il sent l'odeur de la mort, ça l'excite, pauvre bête. Puis je le vois courir vers le nègre, là-bas, sous les trombes d'eau. Viens, Toubab, je l'appelle, pauvre bête. Alors au milieu du vacarme des éclairs déchaînés, je vois un grand trait de foudre. Toubab s'est arrêté, tous on regarde, et on voit le nègre tomber au milieu des bruits de tonnerre, touché sous les tonnes de pluie. Il se couche dans la boue. Vers nous vient l'odeur du soufre, puis le bruit d'un camion là-bas qui fonce vers nous.
Orne fait tourner les dés.
Mon Toubab a disparu, je ne peux pas dormir sans lui, Orne.
Il pleure.
Depuis qu'il est tout petit, il dort sur moi. L'instinct le faisait toujours revenir à moi. Il ne pourra pas se débrouiller tout seul, Orne. Pauvre bête, je ne l'entends pas aboyer, ils me l'ont bouffé. Moi, la nuit, ça me faisait une boule de poils sur le ventre, sur les jambes, sur les couilles. Ça me faisait dormir, Orne. C'était passé dans le sang pour moi. Quel mal je lui ai fait.
Orne, regardant les dés.
12.
Cal ramasse.
Quelle surprise, Orne. Tu dis je vais à l'aéroport, tu reviens, tu me dis ma femme est là. Quel coup. Je savais même pas que tu t'en étais trouvé une pour finir. Qu'est-ce qui t'a pris tout d'un coup, vieux?
Il mise.
Un homme ne doit pas finir sa vie déraciné.
Oui, vieux, bien sûr.
Il ramasse.
Ce qui compte, c'est que tu l'aies bien choisi.
Alors la dernière fois que je suis allée à Paris, j'ai dit, si tu ne la trouves pas maintenant, tu ne la trouveras jamais.
Et tu l'as trouvée. Quel tombeur, vieux.
Il mise.
Méfie-toi quand même du climat. Ça rend les femmes dingues. C'est scientifique, ça.
Pas celle-là.
Cal ramasse.
Qu'elle mette de bonnes chaussures. Que je pourrais lui en prêter. Dis-lui cela, vieux. Les femmes font de l'élégance et ne connaissent rien aux microbes africains. Ceux qu'on attrape par les pieds, vieux.
Celle-là n'est pas une femme ordinaire, non.
Alors, je lui ferai bonne impression, je trouverai l'occasion de lui baiser la main, elle verra l'élégance.
J'ai dit, vous aimez les feux d'artifice? Oui, elle a dit. J'ai dit, moi, j'en fais un chaque année, en Afrique, et celui-là sera le dernier. Vous voulez le voir? Oui, elle a dit. Alors je lui ai donné l'adresse, l'argent pour le billet d'avion. Soyez là dans un mois, le temps que le colis de chez Ruggieri puisse arriver. Oui, elle a dit. C'est comme cela que je l'ai trouvé. C'est pour le dernier feu d'artifice. Je voulais une femme qui le voit.
Il mise.
Je lui ai dit que le chantier allait fermer et alors que je quitterais pour toujours l'Afrique. Elle a dit oui à tout. Elle dit toujours oui.
Pourquoi renonce-t-il au chantier, Orne?
Personne ne le sait. J'ai mis 50 francs.
Pourquoi
Cal
tout de suite?
Mise.
Orne, pourquoi sans explication? Moi, je veux encore travailler, Orne. Et le travail qu'on a fait? Une moitié de forêt abattue, 25 km de route, un pont en construction, et la cité, les puits à creuser, tout ce temps pour rien? Pourquoi on ne sait rien, Orne? Rien de ce qui se décide, et pourquoi toi tu ne sais pas?
C'est Orne, moi... regardant les dés.
C'est moi qui prends.
Les appels de la garde.
Ils grincent des dents.
Quoi ?
Là, derrière l'arbre, le nègre. Dis-lui de partir, Horn.
Aboiement au loin.
Toubab ? Je l'entends. Il traîne près de l'égout. Qu'il y tombe, je ne bougerai pas.
Il mise.
Saloperie, il traîne et quand je l'appelle, il ne répond pas. Il fait celui qui réfléchit. C'est lui ? Oui. Réfléchis, vieux cabot. Je n'irai pas te repêcher. Il a dû sentir l'odeur d'une bête inconnue. Qu'il se débrouille. Il ne devrait pas tomber. Et s'il tombe, je bouge pas.
Il regarde les dés. Cal ramasse.
Le gars Horn. Je peux te le dire. Ce n'était même pas un vrai ouvrier. Un simple journalier. Personne ne le connaît. Personne n'en parlera. Alors, il veut partir. Moi, je dis non, tu ne partiras pas. Quitter le chantier une heure avant ? C'est important, une heure. Si on laisse prendre une heure, il y a l'exemple que cela fait. Comme je te le dis, je dis donc non. Alors il me crache au pied, il part. Il m'a craché au pied et à 2 centimètres, c'était sur la chaussure.
Il mise.
Donc j'appelle les autres gars. Je leur dis, vous le voyez le gars ?
Il imite l'accent nègre.
Oui patron, on le voit. Il traverse le chantier sans attendre l'arrêt ? Oui, patron, sans attendre l'arrêt. Sans casque, les gars, est-ce qu'il a un casque ? Non, patron, on voit bien, il ne porte pas son casque. Moi, je dis, souvenez-vous-en, il est bien parti sans que je l'autorise ? Oui, patron, oh oui, patron, sans que tu l'autorises. Alors, il est tombé, le camion arrivait, je demande encore, mais qui conduit le camion ? Mais à quelle vitesse il fonce ? Il n'a pas vu le nègre ? Et alors ?
Cal ramasse.
Tout le monde t'a vu tirer. Imbécile, tu ne supportes même pas ta foutue colère.
C'est comme je te le dis, ce n'est pas moi, c'est une chute.
Un coup de feu, et tout le monde t'a vu monter dans le camion.
Le coup de feu, c'est l'orage, et le camion, c'est la pluie qui aveuglait tout.
Je n'ai peut-être pas été à l'école, mais toutes les conneries que tu diras, je les connais d'avance. Tu verras ce qu'elles valent. Pour moi, salut, tu es un imbécile, et ce n'est pas mon affaire. Je mets 100 francs.
Je suis...
Horn, tapant sur la table.
Pourquoi tu n'y as pas touché, bon Dieu ? Celui qui touche à un cadavre tombé à terre est responsable du crime. C'est comme cela dans ce foutu pays. Si personne n'y avait touché, il n'y aurait pas eu de responsable. C'était un crime sans responsable, un crime femelle, un accident. L'affaire était simple. Mais les femmes sont venues pour chercher le corps et elles n'ont rien trouvé, rien, imbécile ! Elles n'ont rien trouvé !
Il tape sur la table.
Débrouille-toi !
Il fait tourner les dés.
Quand je l'ai vu, je me suis dit, celui-là, je ne pourrais pas lui foutre la paix. L'instinct, Horn, les nerfs, je ne le connaissais pas, moi. Il avait seulement craché à 2 centimètres de mes chaussures. Mais l'instinct, c'est comme cela que ça marche. Toi, ce n'est pas maintenant que je te foutrai la paix. Voilà ce que je me disais en le regardant. Alors je l'ai mis dans le camion. J'ai été jusqu'à la décharge et je l'ai jeté tout en haut. C'est tout ce que tu mérites et voilà. Puis je suis rentrée. Mais j'y suis retournée, Horn. Je ne pouvais pas tenir en place, les nerfs me travaillaient. Je l'ai repris sur la décharge tout en haut et remis dans le camion. Je l'amène jusqu'au lac et je le jette dans l'eau. Mais voilà que ça me travaillait, Horn, de le laisser en paix dans l'eau du lac. Alors j'y suis retournée, je me suis mis dans l'eau jusqu'à la taille et je l'ai repêché. Il était dans le camion, je ne savais plus quoi faire, Horn. Toi, je ne pourrais pas te foutre la paix. Jamais, c'est bien plus fort que moi. Je le regarde, je me dis, il va me démolir les nerfs, ce boubou. C'est alors que je trouve, je me suis dit, les égouts, voilà la solution. Jamais tu n'iras plonger là-dedans pour le repêcher. C'est comme ça, Horn, pour lui foutre la paix. Malgré moi, une bonne fois, Horn. Enfin, je pourrais me calmer.
Il regarde les dés.
Si j'avais dû l'enterrer, Horn, alors j'aurais dû le déterrer, je me connais bien. Et s'il l'avait emmené au village, je serais allé le chercher. L'égout, c'était le plus simple. Horn, c'était le mieux. D'ailleurs, ça m'a calmé un peu.
Horn se lève. Cal ramasse.
Et sur les nègres, vieux, que les microbes des nègres sont les pires de tous, dis-lui cela aussi. Les femmes ne sont jamais assez prévenues contre le danger.
Horn sort. Tableau 4. Horn rejoignant Albury sous l'arbre.
Il n'avait pas son casque, c'est ce que je viens d'apprendre. Je vous parlais de l'imprudence des ouvriers. J'avais senti juste. Pas de casque. Cela nous enlève toute responsabilité.
Qu'on me donne le corps sans le casque, monsieur. Qu'on me le donne comme il est.
Mais voilà ce que je venais vous dire. Je vous prie de choisir. Soyez là ou ne soyez pas là. Mais ne restez pas dans l'ombre, derrière l'arbre. C'est exaspérant de sentir quelqu'un. Si vous voulez venir à notre table, vous venez. Je n'ai pas dit le contraire. Mais si vous ne voulez pas, partez, je vous prie. Je vous recevrai au bureau demain matin et nous examinerons. D'ailleurs, je préférerais que vous partiez. Je n'ai pas dit que je ne veux pas vous servir un verre de whisky. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Eh bien quoi ? Vous refusez de venir prendre un verre ? Vous ne voulez pas venir au bureau demain matin ? Alors, choisissez, monsieur.
J'attends ici pour prendre le corps. C'est tout ce que je veux. Et je dis, quand j'ai le corps de mon frère, je pars.
Le corps, le corps ! Il n'avait pas de casque, votre corps. Il y a des témoins. Il a traversé le chantier sans son casque. Ils n'auront pas un sou. Dites-leur cela, monsieur.
Je leur dirai cela en ramenant le corps. Pas de casque, pas un sou.
Songez un peu à ma femme, monsieur. Ces bruits, ces ombres, ces cris, tout est si effrayant ici pour quelqu'un qui débarque. Demain, elle sera habituée, mais ce soir, elle vient de débarquer. Alors si en plus de cela, derrière l'arbre, elle voit, elle aperçoit, elle devine quelqu'un, vous ne vous rendez pas compte. Elle sera terrifiée. Voulez-vous terrifier ma femme, monsieur ?
Non, ce n'est pas cela que je veux. Je veux ramener le corps à sa famille.
Dites-leur cela, monsieur. Je donnerai 150 dollars à la famille. À vous, je vous donnerai 200 pour vous. Je vous les donnerai demain. C'est beaucoup. Mais c'est probablement le dernier mort que nous aurons sur ce chantier. Et puis quoi ? Voilà, filez.
C'est ce que je leur dirai. 150 dollars. Et je ramènerai le corps avec moi.
Dites-leur, oui, dites-le-leur. C'est ce qui les intéresse. 150 dollars leur cloueront le bec. Quant au reste, croyez-moi, cela ne les intéresse pas du tout. Le corps, le corps.
Il m'intéresse, moi.
Filez.
Je reste.
Je vous ferai sortir.
Je ne sortirai pas.
Mais vous allez effrayer ma femme, monsieur.
Votre femme n'aura pas peur de moi.
Si, si. Une ombre, quelqu'un. Et puis finalement, je vais vous faire tirer dessus par les gardiens. Voilà ce que je vais faire faire.
Un scorpion qu'on tue revient toujours.
Monsieur, monsieur, vous vous emportez, que dites-vous ? Jusqu'à présent, je m'étais toujours bien entendue. Est-ce que je m'emporte, moi ? Il faut avouer que vous êtes particulièrement difficile. C'est impossible de négocier avec vous. Faites un effort de votre côté. Restez, eh bien restez, puisque vous semblez le désirer. Je sais bien que les gens du ministère sont furieux. Mais moi, comprenez-vous, je n'ai eu aucune part dans ces décisions de haut niveau. Je n'ai aucune part dans ces décisions de haut niveau. Un petit chef de chantier ne décide rien. Je n'ai aucune responsabilité. D'ailleurs, il faut qu'ils comprennent. Le gouvernement commande, commande, et il ne paye pas. Cela fait maintenant des mois qu'il ne paye pas. L'entreprise ne peut pas maintenir des chantiers ouverts quand le gouvernement ne paye pas. Est-ce que vous comprenez ? Je sais qu'il y a de quoi ne pas être satisfait. Des ponts inachevés, des routes qui ne conduisent nulle part. Mais qui puis-je, moi, hein ? L'argent, l'argent, où passe-t-il donc ? Le pays est riche. Pourquoi les caisses de l'État sont-elles vides ? Je ne dis pas cela pour vous froisser, mais expliquez-moi cela, monsieur.
C'est qu'on dit que le palais du gouvernement est devenu un lieu de débauche là-bas, qu'on y fait venir du champagne de France et des femmes très chères, qu'on y boit et qu'on baise tout le jour et la nuit dans les bureaux des ministères. Voilà les caisses vides. C'est ce qu'on m'a dit, monsieur.
Qu'on baise, voyez-vous cela ? Il se moque des ministres de son propre pays, voyez-vous cela ? Tiens, je vous trouve sympathique. Je n'aime pas les fonctionnaires et vous n'avez finalement pas une gueule de fonctionnaire. Alors s'il est ainsi, comme vous le dites vous-même, quand la jeunesse se mettra-t-elle à bouger ? Quand donc se décideront-ils avec les idées progressistes qu'ils ramènent d'Europe à remplacer cette pourriture, à prendre tout cela en main, à y mettre de l'ordre ? Est-ce qu'on verra un jour s'achever ces ponts et ces routes ? Éclairez ma lanterne. Donnez-moi des illusions.
Mais on dit aussi que d'Europe, ce qu'on ramène, c'est une passion mortelle, la voiture, monsieur. Qu'on ne songe plus qu'à cela, qu'on y joue des nuits et des jours, qu'on attend d'en mourir, qu'on a tout oublié. C'est le retour d'Europe, c'est ce qu'on m'a dit.
Les voitures, oui, des Mercedes encore. Je les vois bien tous les jours conduisant comme des fous, et cela me désole. Même sur la jeunesse, vous n'avez aucune illusion. Vous me plaisez vraiment. Je suis sûre qu'on s'entendra.
Moi, j'attends qu'on me rende mon frère. C'est pour cela que je suis là.
Enfin, expliquez-moi. Pourquoi tenez-vous tant à le récupérer? Rappelez-moi le nom de cet homme.
Nuofia, c'était son nom connu. Et il avait un nom secret.
Enfin, son corps. Que vous importe son corps? C'est la première fois que je vois cela. Pourtant, je croyais bien connaître les Africains. Cette absence de valeur qu'ils donnent à la vie et à la mort. Je veux bien croire que vous soyez particulièrement sensible, mais enfin, ce n'est pas l'amour, hein, qui vous rend si têtu. C'est une affaire d'Européens, l'amour.
Non, ce n'est pas l'amour.
Je le savais. J'ai souvent remarqué cette insensibilité. Notez qu'elle choque beaucoup d'Européens. Moi, je ne condamne pas. Notez aussi que les Asiatiques sont pires encore. Mais bon, pourquoi alors êtes-vous si têtu pour une si petite chose, hein? Je vous ai dit que je dédommagerais.
Souvent, les petites gens veulent une petite chose très simple. Mais cette petite chose, ils la veulent. Rien ne les détournera de leur idée. Et ils se feront tuer pour elle. Et même quand on les aurait tués, même morts, ils la voudraient encore.
Qui est-il, Albouri? Et vous, qui êtes-vous?
Il y a très longtemps, je dis à mon frère, je sens que j'ai froid. Il me dit, c'est qu'il y a un petit nuage entre le soleil et toi. Je lui dis, est-ce possible que ce petit nuage me fasse geler alors que tout autour de moi, les gens transpirent et le soleil les brûle? Mon frère me dit, moi aussi je gèle. Nous nous sommes donc réchauffés ensemble. Je dis ensuite à mon frère, quand donc disparaîtra ce nuage, que le soleil puisse nous chauffer nous aussi? Il m'a dit, il ne disparaîtra pas, c'est un petit nuage qui nous suivra partout, toujours entre le soleil et nous. Et je sentais qu'il nous suivait partout, et qu'au milieu des gens, riant tout nus dans la chaleur, mon frère et moi nous gelions, et nous nous réchauffions ensemble. Alors, mon frère et moi, sous ce petit nuage qui nous privait de chaleur, nous nous sommes habitués l'un à l'autre à force de nous réchauffer. Si le dos me démangeait, j'avais mon frère pour le gratter, et je grattais le sien lorsqu'il le démangeait. L'inquiétude me faisait ronger les ongles de ses mains, et dans son sommeil, il suçait le pouce de ma main. Les femmes que l'on eut s'accrochèrent à nous et se mirent à geler à leur tour. Mais on se réchauffait, tant on était serré sous le petit nuage. On s'habituait les uns aux autres, et le frisson qui saisissait un homme se répercutait d'un bord à l'autre du groupe. Les mères vinrent nous rejoindre, et les mères des mères, et les enfants, et nos enfants, une innombrable famille dont même les morts n'étaient jamais arrachés, mais gardés, serrés au milieu de nous, à cause du froid sous le nuage. Le petit nuage avait monté vers le soleil, privant de chaleur une famille de plus en plus grande, de plus en plus habituée, chacun à chacun, une famille innombrable, faite de corps morts, vivants et à venir, indispensables chacun à chacun, à mesure que nous voyions reculer les limites des terres encore chaudes sous le soleil. C'est pourquoi je viens réclamer le corps de mon frère, que l'on nous a arraché, parce que son absence a brisé cette proximité qui nous permet de nous tenir chaud. Parce que, même mort, nous avons besoin de sa chaleur pour nous réchauffer, et il a besoin de la nôtre pour lui garder la sienne.
Il est difficile de se comprendre, monsieur.
Il se regarde.
Je crois que, quelque effort que l'on fasse, il sera toujours difficile de cohabiter.
On m'a dit qu'en Amérique, les nègres sortent le matin et les blancs sortent l'après-midi.
On vous a dit cela?
Si c'est vrai, monsieur, c'est une très bonne idée.
Vous pensez cela vraiment?
Oui.
Non, c'est une très mauvaise idée. Il faut être coopératif, au contraire, monsieur Albouri. Il faut forcer les gens à être coopératifs. Voilà mon idée. Tenez, mon bon monsieur Albouri, je vais vous couper le sifflet. J'ai un excellent projet personnel dont je n'ai jamais parlé à personne. Vous êtes le premier. Vous me direz ce que vous en pensez. À propos de ces fameux 3 milliards d'êtres humains dont on fait une montagne, j'ai calculé, moi, qu'en les logeant dans des maisons de 40 étages, dont l'architecture resterait à définir, mais 40 étages et pas un de plus, cela ne fait même pas la tour Montparnasse, monsieur. dans des appartements de surface moyenne, mes calculs sont raisonnables, que ces maisons constituent une ville. Je dis bien une seule, dont les rues auraient 10 mètres de large, ce qui est tout à fait correct. Eh bien, cette ville, monsieur, couvrirait la moitié de la France, pas un kilomètre carré de plus. Tout le reste serait libre, complètement libre. Vous pourrez vérifier les calculs, je les ai faits et refaits, ils sont absolument exacts. Vous trouvez mon projet stupide ? Il ne resterait plus qu'à choisir l'emplacement de cette ville unique. Et le problème serait réglé. Plus de conflits, plus de pays riches, plus de pays pauvres, tout le monde à la même enseigne et les réserves pour tout le monde. Vous voyez, Albury, je suis un peu communiste, moi aussi, à ma manière. La France me semble idéale. C'est un pays tempéré, bien arrosé, sans disproportion dans le climat, la flore, les animaux, les risques de maladies. Idéale, la France. On pourrait bien sûr la construire dans la partie sud, la plus ensoleillée. Pourtant, moi, j'aime les hivers, les bons vieux rudes hivers. Vous ne connaissez pas les bons vieux hivers rudes, monsieur ? Le mieux serait donc de la construire, cette ville, en longueur, des Vosges aux Pyrénées, en longeant les Alpes. Les amoureux de l'hiver iraient dans la région de l'ancienne Strasbourg, et ceux qui ne supportent pas la neige, les bronchiteux et les frileux, iraient vers les espaces dont l'on aurait rasé Marseille et Bayonne. Le dernier conflit de cette humanité-là serait un débat théorique entre les charmes de l'hiver alsacien et ceux du printemps de la Côte d'Azur. Quant au reste du monde, monsieur, ce serait la réserve. Libre, l'Afrique, monsieur. On exploiterait ses richesses, son sous-sol, la terre, l'énergie solaire, sans gêner personne. Et l'Afrique à elle seule suffirait à nourrir ma ville pendant des générations, avant qu'on ne soit obligé de mettre le nez en Asie et en Amérique. On profiterait au maximum de la technique. On amène un strict minimum d'ouvriers par roulement. Bien organisé, quelque chose comme un service civique. Et il nous ramène le pétrole, l'or, l'uranium, le café, les bananes, tout ce que vous voulez, sans qu'aucun Africain souffre de l'invasion étrangère, puisqu'ils ne seront plus là. Oui, la France serait belle, ouverte aux peuples du monde, tous les peuples mêlés déambulant dans ses rues. Et l'Afrique serait belle, vide, généreuse, sans souffrance, mamelle du monde. Mon projet vous fait rire ? Pourtant, voilà une idée, monsieur, plus fraternelle que la vôtre. C'est ainsi que moi, monsieur, je veux et je persiste à penser.
Il se regarde. Le vent se lève.
Première partie. Vous venez d'écouter la première partie de la pièce « Combat de nègres et de chiens » de Bernard-Marie Coltès, enregistrée dans le cadre du projet On Air. Réécoute et pièce complète, accessible bientôt sur le site internet théâtre-les.com.